Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 février 2013. Nos programmes pour cet après-midi, pas du sport, mais par contre l'émission, ça c'est du sport.
Si, c'est du sport.
Il y a du sport, ouais. Donc à partir de 13h30, on sait pas trop, ça dépendra de l'heure à laquelle ils arrivent. Les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie et du ring.
À l'heure arriveront les résultats sportifs. À l'heure où...
Oui, où arriveront les intervenants, ouais, effectivement.
Logique.
Donc il sera question de boxe tout à l'heure. À 15h, du reggae avec Jeannot Dead. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine sur les chiens que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Oui, il y avait un personnage aussi, oui, qui évoquait, mais là, c'est vraiment le clone, quoi.
Mais la surprise, l'énorme surprise, c'est que autant le personnage de Blame était un humain augmenté qui va chercher les humains originaux.
Oui, tout à fait. Là c'est l'inverse.
Là, on est dans une situation inverse.
Autocitation.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Rich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour Ultimatum.
Salut Das Rich. Ça va?
Eh ben, froidement, nu et jean même. Il y a eu quelques flocons
Nu et jean.
Oui, nu et jean.
Nu
et quelques
jean.
Flocons.
Et nous n'avons pas du sport en face de nous aujourd'hui, exceptionnellement.
Oui, non, mais il prend un bon week-end, tout à fait mérité, hein. On va pas dire ça autrement. Ça va, hier, moi je me suis endormi devant le comité d'entreprise de Canal+.
Il y avait quelques fulgurances, mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu es dans le ventre mou du champion de la cérémonie, c'est vrai que
il y a de quoi endormir quand même l'invité d'honneur.
Oui.
Voilà. Bonjour, c'est le supplément week-end numéro 340. C'est une spéciale logique de crise. Et qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette émission? Eh bien, donc la crise en bande dessinée, un Spirou super riche, après tout, hein, vu le nombre d'exemplaires qu'il vend, c'est un peu normal. De la bande dessinée de chien, faussement pour gamins, ce qui nous mènera à une interview d'un espagnol où on va parler de The Jackie Touch, mais aussi de See the Movie, hein, pourquoi pas faire de la SF sans effets spéciaux en ce week-end des Oscars, et Geek Agency, la loi Cédric.
On va parler
du sport.
On parle d'univers animalier, de fascisme. C'est bien, on a trouvé deux sujets assez complémentaires.
Ouais, je crois que là, waouh. Bonjour et bienvenue, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je ne sais pas par quoi on pourrait commencer tranquillement.
On pourrait commencer. Là, les Césars, on peut dire qu'on en a parlé, ça y est.
Hein. Ouais,
bon,
ouais.
Allez.
Ouais. Ah, bah tiens, on va parler. Azur et Asnar, c'est ça la BD?
Azur et Asmar, de quoi ça?
Ouais.
Pourquoi Azur et Asmar?
Je sais pas lire et je l'ai pas lu donc. Ah, Atlas et Axis! Ah, bah ok.
D'accord, je ne sais pas, je ne sais à quel point cette vanne pourrie était préparée.
Ouais,
ou pas.
Non, elle n'était pas préparée. C'est très difficile des fois de dérocher, tu vois, l'émission d'avant en même pas deux minutes pour trouver la petite fulgurance, justement, puisque t'as lâché le mot, qui me permettra de faire une intro pour le précédemment dans le supplément week-end.
D'accord.
Qui marche bien, tu vois, des fois c'est un peu difficile. Heureusement, on les écrit nos blagues, des fois, mais pas tout le temps.
Des fois, on les écrit pas, et puis des fois, on peut se surprendre avec des gags prévus aux dernières minutes. Par exemple, Xavier, vous n'avez pas la couleur. Mais il vient de sortir deux pommes de son sac.
Pas de mon sac, de la poche. Les ai sorties parce que j'ai peur que ça soit de la purée.
D'accord, mais je sais pas si c'était un sketch ou si c'est juste pour manger pendant l'émission.
Non, c'est pour manger pendant l'émission parce que l'interview va être longue.
D'accord.
Oui, forcément.
Donc là, tu veux que j'enchaîne avec Atlas et Axis, c'est ça?
Ouais, ce serait cool.
Allez, Atlas et Axis, donc. Le titre complet, c'est la saga d'Atlas et Axis. Donc, effectivement, ça a plus l'air d'une saga puisque c'est une série pour l'instant en deux tomes. Et on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres vu la fin ouverte de ce tome 2. C'est vrai que le tome 1 se justifie à lui seul parce que c'était... on va quand même situer l'univers de la bande dessinée. Donc, c'est dans un univers un peu de viking, dans des contrées assez froides, avec deux aventuriers. Guerrier, qui sont donc deux chiens Atlas et Axis dans un monde peuplé de chiens exclusivement, avec un trait plutôt gamin, plutôt un, je dirais pas ligne claire parce que je vais me faire fusiller par les spécialistes.
Ouais, je dirais childish, un peu Disney. Hein.
Ouais, même Bone d'ailleurs, ouais. le comics Bone. En fait, le principe de cette série là, c'est que le dessin fait penser beaucoup à une bande dessinée pour gamins, alors que la thématique et les aventures en elles-mêmes ne le sont absolument pas. En fait, le traitement graphique donne un côté gamin, mais si vous regardez le traitement, le scénario, le script, c'est vraiment une BD d'aventure avec des gros guerriers, des grosses épées et tout. Sauf que l'auteur espagnol, Paul Rodriguez, peuple par sème des petits éléments assez rigolos dans la bande dessinée, comme par exemple cette croyance ancestrale venue de nulle part qui voudrait que les brebis, quand elles meurent, elles explosent.
Alors, ça me rappelle un certain cinéma de genre néo-zélandais.
Oui, ou un certain cinéma britannique avec un lapin mutant. Ça m'a aussi fait penser au Monty Python.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, tiens. Ouais.
Alors, c'est marrant parce que cette brebis qui explose dans le 1, tu te dis, c'est un gag complètement gratuit. Et en fait, elle refait son apparition dans le 2 et cette fois, c'est expliqué. Et tu vois que certains gags qui sont dans le 1, ben, c'est pas du tout gratuit en fait. C'est des trucs qui reviennent après. Alors, l'auteur est très très fort de ce côté-là. Alors, ça fait pas de mine cet album parce que tu le vois, c'est un petit album avec une pagination qui semble assez ramassée, mais quand vous commencez à feuilleter, vous voyez qu'il y a déjà à peu près 75-80 pages avec des bonus à la fin, et puis l'histoire est très très dense. Moi je me suis surpris à mettre vraiment du temps à lire ce tome 2. Alors donc la première partie, le premier tome, c'était une histoire de vengeance exclusivement, puisque les deux chiens partaient à la rescousse d'une chienne justement qui avait été enlevée par des Vikings, et ce qui était raconté dans cette aventure là était vraiment très sanglant, très sauvage, et c'était très très surprenant de voir ça avec ce trait là, ce graphisme là. Et dans le tome 2, tout part d'une rixe dans un bar où des pseudo savants sont prêts à se casser la figure et à se rouer de coups. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a l'idée saugrenue d'avancer la théorie de l'évolution, le darwinisme avant l'heure, version chien, c'est-à-dire qui dit que ces chiens, eh bien, de l'histoire, ils descendent du chien-loup. C'est une évolution naturelle, mais pas du tout, enfin, c'est le chien dieu. Alors, il a un nom, un jeu de mots d'ailleurs, le dieu chien dedans, qui dit nous sommes tous issus de l'équivalent d'Adam et Ève, du coup. Alors c'est le fameux affrontement entre l'évolution et le déterminisme et l'évolution.
Alors, ou le design intelligent aussi,
voilà. Et donc Atlas et Axis parti pour aller démontrer que, eh bien, il y a bien eu des chiens loups à un moment donné, et que il se pourrait que des tribus primitives aient encore un gène avec leurs ancêtres communs beaucoup plus prononcé qu'eux. Et donc c'est une quête. Alors ce tome 2 est très rigolo puisqu'en fait c'est vu à travers des chiens, donc les deux chiens, vous comprendrez si vous regardez la BD, les deux chiens sont, l'auteur appuie justement sur le fait que ce soit des chiens et pas des humains. Donc il y a quelques petits gars qui fonctionnent très très bien là-dessus, jusqu'à ce purée, cette punaise de cliffhanger à la fin où l'histoire part vers autre chose, et là tu te dis waouh, ah ouais quand même, l'auteur est capable de jongler entre plusieurs univers, entre plusieurs niveaux d'humour et entre plusieurs surtout niveaux d'aventure, et à la fin tu te prends une claque, tu te dis mais ça peut pas se terminer comme ça. Alors là, du coup, tu attends le tome 3 fébrilement, et cet auteur, eh ben, il a vraiment un talent de conteur, un talent dans le dessin, déjà le dessin est tabasse, et c'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Cette BD,
c'est fou, ça ressemble à Gone. Quand tu regardes la tête, tu te dis c'est Gone.
Oui, oui, alors.
Il y a vraiment plein d'allusions dans le.
Ah, oui.
Xavier, j'avais pas vu dans le tome 2, ouais.
Xavier pointe du doigt certaines pages qu'on ne vous dira pas ici.
Ah, non, surtout pas.
Et alors, la BD, justement, a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que c'est une BD qui est absolument inclassable, qui en font l'indéniable qualité de cette série, et en même temps son défaut, parce qu'on sait pas trop où la ranger, à qui la conseiller. C'est-à-dire que si tu le conseilles pour le graphisme à un public jeune, ben, l'histoire, c'est pas trop pour eux.
Il y a même même des détails graphiques.
Ah oui, c'est sanglant. À
sanglant. Attention, il y a des surprises, vous faites pas avoir.
Ouais. Et si tu le conseilles à des adultes qui sont plutôt dans la BD, plutôt d'aventure premier degré, bah, le dessin va les rebuter. Donc c'est, par contre, il faut tomber sur des gens ouverts qui sont capables d'aimer les deux genres. Et là, par contre, ça fait mouche. Franchement.
Ah vraiment. Sincèrement, c'est vraiment de ce côté-là une très très bonne surprise, voire même à la limite des gens qui sont pas forcément éveillés point de vue bande dessinée, mais qui aiment bien l'humour et tout ça, et qui aiment bien la fantasy, ça peut marcher, je pense.
Voilà, donc la saga d'Atlas et Axis par Pau Rodriguez chez Ankama Édition dans la collection Étincelle. Donc c'est la collection bande dessinée pour jeune public. Donc 2 tomes parus pour l'instant, et nous allons vous passer à présent une interview de l'auteur que nous avions réalisée au Festival d'Angoulême l'an dernier.
Ce qui fait qu'à l'époque on avait que le premier tome sous la main. Voilà, Pau Rodriguez donc.
Pau, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as un style très très marqué graphiquement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'éditer cette BD ?
Mon parcours était... J'étais toujours dessinateur. Je suis passionné de la bande dessinée, mais en Espagne c'est très difficile de faire ça comme un métier. Alors je me suis mis à faire un dessin quotidien pour un journal, pour un quotidien. Et pendant 7 ans, je gagnais la vie avec ça, mais je faisais à part des BD. Je faisais des fanzines et tout ça. J'essayais toujours de publier en France, avec ce projet même.
Et c'était de la caricature pour ce quotidien, ou c'était un strip pour remplir les pages, entre guillemets ?
C'était un dessin quotidien d'actualité politique qui était enfin publié aux pages d'opinion. Et c'était surtout des caricatures des politiciens. Au dernier temps, j'ai essayé d'éviter les caricatures parce que je pensais plutôt que c'était des problèmes généraux des politiciens, pas d'une personne concrète. Et j'ai changé un peu mon style. Mais oui, c'est ce genre de dessin.
Alors quand on lit Atlas et Axis, on se dit tiens, chouette, on va l'offrir au petit neveu. Et en fait, quand on lit, on dit ah ben non, pas du tout. Alors pourquoi avoir choisi de traiter une histoire aussi violente avec un trait aussi mignon ?
Pour moi, c'est plus efficace avec ce dessin parce que les émotions sont plus fortes. Pour le lecteur, le choc est plus brutal, même si si c'est amusant et si c'est tragique. De toute façon, est plus brutal avec ce genre de dessin. En plus, je crois que pour les enfants, ça va aussi.
Bon, c'est très bien de dessiner des chiens. Est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu vendre 2 fois plus avec des chats, le côté kawaii ?
Peut-être oui, mais j'ai toujours eu des chiens chez moi et je leur connais très bien. Pourtant, les chiens, je ne connais pas du tout.
Oh, c'est pourtant simple, ils t'ignorent en général. Question complètement raciste maintenant, hein, pour entrer dans la polémique. Quelle race de chien est la plus difficile à mettre en scène ?
J'ai pas de problème pour mettre aucune race de chien. Pour moi, tout sont quand on voit un chien, on peut voir un peu son caractère. Alors, je choisis la race dépendant du type de personnage que je veux faire.
Alors, désolé, on fait des raccourcis parce qu'on est des journalistes. Hein, voilà. Il y a eu Black Sad avec des animaux. Qu'est-ce que vous êtes tous, les Espagnols, avec les animaux ?
Je sais pas, je pense que c'est une casualité. Parce que j'ai commencé à faire ce projet en 1996 et je ne trouvais pas d'éditeur. Et je pense vraiment que c'est Black Sad, avec son succès, qui m'a permis de trouver un éditeur intéressé à une BD animalière. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi les Espagnols les montent aussi autant les animaux, et pourtant on les tue dans la place des toros, la corrida et tout ça.
Oui, c'est vrai. D'un autre côté, c'est vrai que Thomas fait la comparaison avec Black Sad et elle est bienvenue, parce que Black Sad, effectivement, c'est du dessin animalier typiquement disneyen, c'est normal, hein, puisque les auteurs ont travaillé à Montreuil, mais aussi avec des couleurs très saturées, très pleines, etc. Est-ce que, justement, tu penses que tu aurais fait la série de la même manière, dans le même style, si tu n'aurais pas eu l'occasion d'avoir la colorisation?
Ah non, pas du tout. Pour moi, la colorisation est ici, dans cette BD, même plus importante que le dessin. Et sur la comparaison avec Black Sad, je pense que oui, qu'on a tous les deux une grande influence de Disney, mais la mienne est plutôt des années 30 et la de Guarnido c'est plutôt des 70.
Alors, tu situes l'univers de ta bande dessinée dans un peu l'heroic fantasy et tout, et tu te rends compte que tu frustres toute une armada de fans d'heroic fantasy, des Thorgal, des Lord of the Rings, et parce que tu mets avec des petits chiens. Alors les gens, ils vont vouloir le voir, mais c'est des petits chiens, est-ce que tu es conscient de ça?
Moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est très frustrant l'autre version avec seulement des personnes très sérieuses qui parlaient la bouche fermée, parce qu'au dessin réaliste, ils parlent toujours comme ça, la bouche fermée, la bouche fermée. Et c'était ça que je n'aimais pas de ce genre de BD. Alors je l'ai fait à ma façon.
Ouais, en même temps, vouloir mettre en scène par exemple des loups-garous avec des chiens, un chien-loup passe encore, un chien-berger passe encore, mais un caniche ou un chihuahua en loup-garou.
Vous avez deviné tout. Tout ça va venir.
Ah, désolé pour le spoil.
Alors, quand on a vu ta BD, on n'a pas pu s'empêcher de penser à une autre série de Jeff Smith, Bone. Est-ce que tu connaissais la série? Est-ce que tu te réclames de cette filiation graphique aussi?
Je connais la série et j'aime beaucoup quelques couvertures que j'ai vues, mais j'ai pas lu la série parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de... Parce que pour moi, c'est très important que le dessin m'attire beaucoup pour commencer à lire. Ouais. Et c'était pas le cas. Et pourtant, tout le monde le compare avec Bone, et ça, pour moi, c'est un honneur. Mais je suis désolé, je n'ai pas encore lu. Et maintenant que tout le monde le compare, je ne vais pas lire jusqu'à ce que j'ai fini la saga, au cas où pour ne pas copier.
Entre nous, ça manque de bagnole, hein, quand même, le médiéval fantastique. Je crois
c'est
que tu as...
Cette époque, il n'y avait pas de bagnole.
Je crois que c'est une de tes passions. Et justement, tu prépares une série chez Paquet avec le scénariste Sty, si je me trompe. Est-ce que tu peux en parler?
Non.
Alors ça tombe mal parce que moi j'ai vu les planches et ce qui m'avait surpris c'est que en fait bon tu as dessiné des humains avec à peu près le même, je veux dire à peu près le même type de visage d'ailleurs que les chiens, le pif en moins. Par contre sur les voitures c'est très réaliste mais c'est très légèrement exagéré.
Oui. J'ai toujours des problèmes à publier des personnages humains en France parce que apparemment mon style n'allait pas avec l'humour. Avec l'image que vous avez de l'humour ici en France, avec le grand nez et tout ça. Et puisque j'ai vu que la saga a eu du succès, j'ai essayé de transmettre le même style, mais au caractère humain. Et ça a marché. Et le contraste entre les voitures aussi réalistes et aussi dures, métalliques, avec ces personnages assez moules, j'aime bien.
Donc la série s'appelle The Jackie Touch. Est-ce que tu as visité le site en question qui a disparu depuis 6 ans hein, quand même hein. Là on parle de trucs de dino et qui collectionnait les photos des plus beaux loupés de Jackie.
Je ne connaissais pas, Steve m'a raconté, c'était moi ça mais je ne connais pas.
D'accord, on va essayer de trouver ça sur le net. Alors vous entendez un bruit de loto derrière avec des numéros de tirage et des hauts et puis des kin dans le fond, c'est normal parce qu'on est sur le stand Ankama en fait au festival d'Angoulême et pour essayer en plus il continue tu vois pour essayer de gérer en fait la foule des dédicaces ils font des tirages au sort. Est-ce que toi il y a suffisamment de monde pour qu'on passe à des tirages à 3 chiffres?
Non, pas pour l'instant. Pour l'instant il n'y a pas de tirage pour moi et en plus j'essaye de pas beaucoup faire attendre les gens. Alors si je vois qu'il y a beaucoup de gens je descends plus vite et s'il n'y a pas de gens je descends plus doucement.
Donc pas de tirage mais au moins une chance au grattage.
Ah oui bien sûr. Oui, j'ai confiance à ça.
Est-ce que, après que tu aies travaillé sur Atlas et Axis, dans l'univers, je veux dire, proche des Vikings et tout ça, tu as envie de t'insérer sur un univers beaucoup plus fantasy, avec le même type de personnage ou avec un autre type, je veux dire, d'exagération?
Non, en fait, j'ai beaucoup de séries à commencer parce que à chaque fois qu'on me refusait une série dans toutes les maisons d'édition, j'en commençais une autre. Et maintenant, j'en ai beaucoup de commencer et comme là, c'est accès à du succès, il y a des éditeurs intéressés aux autres séries. Okay. Et ils sont tous différents parce que sinon je m'amuse pas et je veux pas m'ennuyer avec la BD. Alors si toutes ces histoires que je veux raconter dans cet univers, je les raconte dans la saga de l'Alexis. Puis j'ai la série avec Jackie pour dessiner des voitures et des chats. Et j'ai plusieurs séries pour chaque envie.
D'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, j'acquis pour 2013, hein, le premier tome.
J'espère, oui.
Alors, les toutous, ils hurlent à la mort parce que tu es en train de les délaisser pour faire d'autres séries. Quand est-ce que tu penses donner une suite à ces petits toutous de Atlas et Axis? Parce qu'il faut quand même rappeler que le premier tome se finit sur une note extrêmement noire. Est-ce que tu vas privilégier justement les autres séries pour changer d'univers, ou est-ce que tu vas te mettre de suite à la suite dans les prochaines années?
Pour les rassurer.
La suite de la série? Oui, je suis déjà en train de dessiner le tome 2 et ça va sortir pour Noël.
Désolé. C'est quoi le chien?
Pour Noël, pour Noël de 2012. Je vais essayer.
D'accord.
Eh bien, si c'est OK pour toi, Pau, merci beaucoup. Et puis, bonne chance au toutou, alors.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Oui, j'ai gardé l'éternuement juste pour ce qu'il disait derrière, ses poils de chien. Enfin bon, donc effectivement on a parlé dans l'interview d'une BD dont on a vu qu'une douzaine de planches à ce moment-là, à savoir The Jackie Touch. Donc le premier tome va sortir chez Paquet sur un scénario de style. La parution du premier tome donc est prévue en juin chez Kala. Donc ça veut dire qu'on a vu la BD 18 mois avant sa sortie au moment de cette interview qui a été enregistrée donc en janvier 2012.
Donc ça veut dire qu'il a fait deux BD en même temps.
Et à mon avis un peu plus.
D'accord. Alors c'est, Jackie Touch, c'est l'adaptation de Pimp My Ride, c'est ça, hein?
À peu près, oui. Tout aussi loupé. Non. Jackie Touch, c'est encore pire que Pimp My Ride. Pimp My Ride, les voitures sont belles, la finition est bien, mais elles sont juste pas pratiques. Là, The Jackie Touch, c'est pire que tout. Les finitions sont loupées. C'est fini au scotch, à la peinture et tout ça. C'était un site qui était mythique il y a une dizaine d'années. D'accord. Sur les photos qui reprenaient le pimpage le plus loupé possible des voitures. Vous savez, les baguettes dessous, les ailerons qui sont faites en carton sur la 205 GTI. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Pour en revenir donc à...
J'aurais jamais cru un jour que Deskrich parlerait de voitures dans cette émission. Bah,
pourtant, tu sais que je suis fan d'une certaine émission anglaise.
Oui.
Pour en revenir à la saga d'Atlas et Axis, donc le tome 2 est sorti il y a...
C'est tout récent, là. C'était pour Noël, je crois.
D'accord. Et donc, c'est chez Ankama Edition. Et Po qui en a fait à la fois le scénario et le dessin. Atlas, c'est le morceau de Ifen Ifen qui est sur la compilation Fer 2013 que l'on va vous passer maintenant. We'll be right back. Ifen, et je l'ai juste programmé pour le nom du morceau Atlas. Ils sont niçois, ils font partie de la compilation Fer 2013, dont on a des exemplaires à faire gagner à la radio, donc restez à l'écoute sur 89.1. Et c'est aussi parce que quitte à ce que théoriquement on a moins de sujets, un petit peu plus de prog musical, tu parles, je pense qu'on va être bien saturé encore une fois dans cette émission. La crise, tout est parti en fait d'un billet d'un article de fond plus exactement, d'un éditorial assez important édité par notre chère éminence grise, à savoir Didier Passamonique, qui connaît bien quand même le milieu éditorial de la bande dessinée, donc le secteur économique depuis plus de 30 ans.
Didier Passamonique, éditeur adjoint de notre partenaire le site actuabd.com.
Voilà, donc nous sommes bien mal placés pour juger quand même de ses écrits entre guillemets, mais et où en fait il disait ben non, le secteur va très bien, madame la marquise, non le secteur éditorialement est en pleine forme. Seulement, d'un autre côté, Gilles Ratier faisait remarquer qu'il y a 1000 auteurs professionnels de la bande dessinée qui essaient de vivre de leur art. Ça a été rappelé dans un article du Monde qui est paru avant-hier, il me semble. Et bien évidemment, ben, il y en a qui s'en sortent très bien, hein, et il y en a d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien. Et ceux qui s'en sortent très bien, en général, c'est ceux qui vendent à plus de 50 000 exemplaires dans l'année. Et parmi ceux qui marchent très bien, et ben, il y a la franchise Spirou. Alors la franchise Spirou, elle est un peu particulière aussi. Elle n'est pas liée à des auteurs d'une manière principale, mais elle est liée à un éditeur, à savoir les éditions Dupuis. Et actuellement, les auteurs qui font la série principale de Spirou, c'est Fabien Vellman au scénario, qu'on a déjà beaucoup apprécié dans la série Violine et tout ça, et Johan, qui avait fait Nini Renze Good et qui avait fait Toto l'Ornithorynque, de styles complètement différents, et qui a su trouver un juste milieu avec les aventures de Spirou et Fantasio. On avait eu déjà quelques aventures qui était pas mal, et là pour les 75 ans, eh ben on a droit à un tome 53 plutôt surprenant dans l'histoire que je vais vous dévoiler maintenant. L'album s'appelle Dans les griffes de la vipère, et c'est un album pour les 75 ans en fait. Bah oui, parce que ça fait 75 ans que l'espiègle bruxellois en uniforme rouge a surgi d'une peinture de Rob Vell, le premier dessinateur de Spirou, celui que les aventures ont fait le succès du journal qui porte son nom. Spirou est resté jeune, et il n'est pas rare que dans la rue, on l'aborde, que cela soit des enfants ou des adultes. Oui, là je parle de l'album lui-même. C'est-à-dire que Spirou, en fait, est un aventurier, un vrai, et en fait, il est héros de bande dessinée dans la vie de profession. Est-ce que vous voyez vers où je vais ? Bon, pas encore. Oui, mais en tant qu'aventurier, est-ce qu'il est un exemple pour la jeunesse ? C'est justement le problème. Une association de familles bien pensantes, désœuvrée entre un procès contre Internet ou contre les jeux vidéo, est partie en guerre contre le journal de Spirou, car leurs enfants sont assez naïfs pour se lancer d'un toit ou faire du skate sur une ligne électrique. Ce qui n'aide ni le déficit de la sécurité sociale, ni le prestige de ces familles auprès de leurs voisins, d'une autre condition sociale, bien évidemment. Voyez-vous. Et évidemment, ce n'est pas l'éducation des parents qui est à remettre en cause, mais bien la bande dessinée. Oui, ce drame, ce fléau qui pervertit notre jeunesse. Spirou donc se retrouve, bien malgré lui, impliqué dans une guerre judiciaire que son journal va perdre, avec des colossaux dommages et intérêts à payer. Mais il se trouve que, lors de l'audience, le groom tombe nez à nez avec Gilles Coeurvaillant. Oui, le célèbre détective explorateur, celui-là même qui a donné à Spirou l'envie de vivre d'extraordinaires aventures. Il se trouve que Gilles a peut-être une solution. Un fonds d'investissement prestigieux, la Viper, peut financer les colossaux dommages et intérêts du journal, mais aussi relancer son expansion. Ah, un contrat que Fantasio et Spirou vont signer aussi bien par contrainte que par enthousiasme, après tout. Eh oui. Mais si on en croit les petites lignes, cela veut dire que Spirou doit partir pour une retraite dorée, puisque son nom a été racheté. Le voilà qui va devoir déménager dans une villa somptueuse, sise sur une magnifique île tropicale, domaine privé de la vipère. Bref, Spirou est désormais ultra riche et doit donc vivre une vie d'oisif. Comme le dit Spip, ainsi commencent les très 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 lentes aventures judiciaires de Spirou, car bien évidemment, cette retraite dorée n'est pas du goût du groom de l'hôtel Moustique, mais par contre, qu'il faudra bien casser un jour s'il veut revivre des aventures. Le concept est vraiment osé, l'idée est excellente et très bien mise en scène. Il offre aussi de nouveaux ponts entre les aventures passées et celles à venir. Les aventures de Spirou et Fantasio, numéro 53, Dans les griffes de la vipère. Et Thomas a dit, ah oui, effectivement, il y a les moyens, la couverture est métallisée et tout. Ouais.
Oui, sur la voiture. Ouais.
Elle est bling-bling.
Mais alors franchement, j'ai mis du temps à entrer dans ta chronique parce que je comprenais rien à ce que tu disais, mais comment ça, Spirou, une mise en abîme, mais ils ont fumé ou quoi? Alors, mais alors moi je suis pas très grand connaisseur de Spirou, mais j'ai l'impression que c'est quand même une série de Franco-Belgie qui se permet pas mal de mise en abîme en fait, puisqu'il y avait déjà eu Luna Fatale où ils avaient complètement pété les plombs pour faire un album qui était pas du tout dans l'esprit du reste
et qui était vraiment la démonstration que les auteurs n'avaient pas la main sur la série, mais c'est plus l'éditeur. Ça avait tourné au clash au départ de quand même Tom et Jean-Ri, qui étaient franchement les auteurs qui avaient relevé la série par rapport à Franquin.
Là c'est vraiment déroutant quoi, ce script que tu es en train de dire là.
C'est tout à fait, et en même temps c'est génial.
C'est comme si Lucky Luke, on lui disait toutes tes aventures c'était une reconstitution, donc t'as des gars d'aujourd'hui avec des portables.
Tu joues dans un western à l'ancienne, ou ouais, un western crépusculaire où on ne sait trop.
Et puis voilà, c'est vraiment space. Ouais, pourquoi pas. Enfin, moi je suis pas très grand connaisseur de Spirou en même temps, mais ça me donne envie de le lire. Tout à fait, oui.
En tout cas, moi j'ai foncé chez mon libraire, je pouvais pas ne pas l'acheter. Voilà, c'est waouh. Il y a eu vraiment une remise en question, une remise à niveau, une redécouverte du personnage. C'était très fort pour un album normal, hein, en plus. Il y a une idée qui est fabuleuse. Elle parle aussi d'une manière indirecte de la relation entre le lectorat et les héros, entre les parents et la bande dessinée, et certaines lignes de vertu, ce que n'a pas connu la Belgique, hein, la loi de 49 sur la protection de la jeunesse, qui a précédé celle aux le Comics Code Authority, qui allait castrer les comics pendant plus de 30 ans. Donc évidemment, c'est très intéressant à lire si on a cette culture-là. Mais si on ne l'a pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez parfaitement lire Spirou, cet album-là, en connaissant le personnage. Ça donne juste une fraîcheur qui est absolument géniale. Il y a des clins d'œil, il y a des clins d'œil au Secret de la Licorne, il y a des clins d'œil, on voit passer des personnages réels ou imaginaires, on voit passer deux Messmaker.
Ouais.
Mais on voit aussi Yvan Delporte, scénariste et rédacteur en chef historique du journal de Spirou. Plein d'autres choses derrière. C'est une belle claque. Je vous laisse. Il y a vraiment des découvrir à faire de ce côté-là, point de vue featuring. Les aventures de Spirou et Fantasio numéro 53 dans les griffes de la vipère. C'est chez Dupuis, Fabien Velman au scénario, Johan au dessin. Johan est un copain. Mais quand même, je suis toujours pas totalement convaincu de son dessin, parce qu'il ressemble des fois un petit peu au Spirou de Fournier, d'autres fois à autre chose, mais non, quand même, finalement, oui, il le fait parfaitement. Alors, on parlait de la crise dans la bande dessinée, et
on parlait d'un groom.
On va parler à nouveau d'un groom dans un hôtel, mais cette fois-ci, c'est un vrai groom. Lénaïque Vilain, RAS, tome 1 sur 2, c'est dans la collection Poivre et Sel. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a actuellement en France plus de 1000 auteurs de bande dessinée qui tentent de vivre de leur art. Si on en croit les chiffres compilés par Gilles Ratier, secrétaire de l'association des critiques de la bande dessinée. En vue de la surproduction actuelle de titres, je rappelle quand même qu'il y a eu 5500 albums sortis, soit plus de 4000 nouveautés en franco-belgique, ce qui fait que les albums, on les voit passer de manière réellement épisodique chez les libraires.
Alors 4000 nouveautés, le rythme c'est quoi? C'est 52 semaines. Donc il y a combien de nouveautés par semaine?
Non, par jour.
Comment?
En comptant tous les jours et en oubliant les jours fermés.
Ouais.
Fais le calcul.
Je sais pas.
Facilement, ça fait plus de 12 par jour.
12 nouveautés par jour. D'accord.
Ah là, tu te dis, oui, il y a un souci. Oui, je sais, la division est peut-être fausse, mais je l'ai faite de mémoire à l'antenne tout en réalisant, c'est quand même pas évident. Bon, être auteur, eh ben, quand tout le monde n'a pas la chance de vendre 50 000 albums à chaque nouveauté, être auteur, c'est un artisanat ingrat qui paie difficilement. Lénaïc Vilain est justement un de ces jeunes auteurs qui doit trouver un boulot alimentaire pour payer le loyer et faire bouillir les nouilles jusqu'à la fin du mois. Le boulot qu'il a trouvé, c'est gardien de nuit dans un hôtel. Vigile, si vous préférez. Un hôtel de luxe. Soit très bien placé sur Paris, soit, mais dans le style construction gratte-ciel. Pas de charme. Alors évidemment, il se dit que c'est en attendant de trouver mieux. Au pire, 6 mois, il va y rester. Il va y rester 6 années. Un service de 8 heures toutes les nuits à faire sa ronde dans les couloirs. Des coéquipiers sympas, mais un standing quand même certain à respecter. Et surtout des alarmes qui se déclenchent si les portes des chambres ne sont pas refermées au-delà d'un certain temps. Alors croyez-le, il y a bien des raisons pour que dans un hôtel 3 étoiles minimum, les portes de chambre ne se referment pas dans la minute. L'album est court, illustré dans un style croqué, mais vraiment sympa à lire dans ses tranches de vie. J'aimerais vous laisser le plaisir de la découverte, donc je ne vais rien dire. Je ne vais rien vous dévoiler des anecdotes qu'il raconte. C'est à vous à le découvrir, justement, de ce côté-là. RAS, tome 1 sur 2, c'est Lénaïc Vilain. C'est aux collections Poivre et Sel. C'est une tranche de vie, et en même temps, ces petits riens qui font que, on vit tous, finalement, une aventure, des aventures, et certaines sont formidables. Donc voilà. excusez-moi. C'est dans un format comics, c'est un souple, il doit faire même pas 32 pages, je pense. Thomas est en train de les compter parce qu'elles sont pas numérotées.
Ah merde. Ouais, 30, ouais, à peu près, ouais. 30-40.
Donc voilà, c'est de ce côté-là.
C'est une BD qui se lit vite, non?
Oui. D'accord. Oui, très vite. Donc évidemment, on se dit, non, mais je vais pas l'acheter, et tout ça. C'est dommage parce que on découvre un auteur, ce qui est quand même le principal. C'est un auteur qui, à mon avis, a des chances plus qu'intéressantes dans le... Oui, je suis en train de causer tout en changeant de saisie, et c'est quand même pas évident. Qui a toutes ses chances, justement, dans le style...
Non, mais après, c'est...
Dans le style, justement, raconter des aventures personnelles, carnet de voyage, carnet de croquis. Mais d'un autre côté, il peut tout aussi bien se retrouver dans la presse, dans la presse papier. À mon avis, il a tout à fait ses places. Il a vraiment un don pour croquer les gens et en même temps faire une mise en scène qui soit simple et compréhensible et surtout lisible, ce qui est quand même pas évident.
Ouais, il y a le trait qui est très hachuré mais à la fois très très synthétique, donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a une nervosité dans le trait qui me plaît bien. Ensuite, il a une expérimentation dans les cases et dans le découpage, puisqu'à un moment donné, dans un ascenseur, c'est des cases qui s'étirent vraiment en hauteur. Tu as des cases sans cerne, d'autres, tu as les cases qui sont bien délimitées. C'est selon l'histoire qui raconte dans les pages, à chaque fois ça change. Après, je trouve que le peut-être la typo est manque un poil de lisibilité, mais c'est en accord avec son trait également. Donc, moi, ça m'intéresse de voir cette bande dessinée. Ouais, vraiment le style visuel est pas mal, ouais, vraiment sympa, ouais.
D'un autre côté, la crise, quelle crise ? C'est un collectif aux éditions de La Gouttière. Ouais, non, j'emmerde la régie pub. Oui, je sais. Bon, après celle-là, s'il vous plaît, promis juré. La crise, quelle crise ? Eh bien, les éditions de La Gouttière, c'est la branche éditoriale du Festival de la bande dessinée d'Amiens. Ils avaient déjà produit, par ailleurs, un album collectif suite à une exposition, à savoir Cicatrices de guerre, qui racontait en fait la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler qu'Amiens, c'est la capitale de la Picardie. C'est une région qui a été particulièrement ravagée par la Grande Guerre. Mais c'est aussi une région minière durement touchée par la désindustrialisation et encore plus par la crise économique actuelle. C'est donc avec 18 auteurs de la région que cet album parle de ce concept économique autrement qu'avec des chiffres froids. Fraco, Sylvain Savoya, M, Philippe Thiroux et tous les autres donnent à chacun leur vision, soit très négative, soit avec une petite lueur d'espoir sur la crise, le chômage, la ruine des familles modestes, la destruction des biotopes et le racisme. Alors oui, en général, on achète une bande dessinée pour le plaisir, pour se détendre. Mais après tout, la prise de conscience est aussi de la preuve que la bande dessinée est un vecteur fort. Et quand la crise, si elle se termine, sera passée, cet album et les autres qui la traitent seront des témoins précieux. Nous partageons enfin le regard dédaigneux des très hauts cadres et des grands patrons envers le petit personnel qui est si facile de licencier. Nous apprécierons les promotions des conseillers bancaires qui ont proposé à dessein des placements extrêmement risqués, ruinant les retraites accumulées après une dure vie de labeur. Nous aurons le bonheur du patron qui a tenté de faire vivre son magasin et qui a dû le fermer, complètement criblé de dettes. Nous aurons l'assurance du billet retour offert pour les ouvriers immigrés. Et ainsi de suite. Cet album s'appelle Un exutoire, et ses auteurs tentent de rappeler l'indicible, le cynisme de la crise. Les riches ne s'approvisent rarement. Le fossé est de plus en plus grand. La crise, quelle crise ? C'est aux éditions de La Gouttière et donc un collectif de bande dessinée. Je crois que Thomas, là, il vient de se prendre une claque en le lisant. Ouf.
Alors moi, j'ai une remarque concernant la couverture, parce que bon, une BD qui parle de crise, bon, déjà, faut se le fader. Est-ce que les commerciaux étaient obligés de mettre une couverture qui donne franchement pas envie, avec cette espèce de typo très froide, très avec des empattements qui est vraiment pas sexy. L'illustration qui est derrière, c'est de l'aquarelle. Alors certes, la technique est pas mal, mais c'est marron, c'est désaturé, ça donne... Moi franchement, je vois ça, c'est bon, mais ça en dessous d'un carton, et puis donne-nous du Spirou, quoi. Enfin, je sais pas, quand t'entends de crise, bah, soit tu sors cette BD après la crise, tu sors pas pendant, quoi. Les gens, ils vont pas acheter ça, quoi. Enfin, je suis désolé. En même temps, peut-être que enfin, moi déjà, j'ai du mal avec les BD collectives. Je trouve que bon, bref.
On va avoir des emmerdes.
Oui,
de
pardon.
Suite, oui, parce que la régie pub me fait remarquer qu'il est 12h42 sur la poubelle des radios, donc désolé du retard.
Ceci est un message de propagande à l'attention de toi, public auditeur.
Progression présente la semaine du rock.
Durant une semaine, du 25 au 31 mars, le Rock Invest Toulouse dans 8 salles différentes avec 25 groupes locaux. Retrouve toutes les infos sur Facebook, la semaine du rock officielle.
I'm Barack Obama and I approve this message.
C'est à nous. Voilà. Bah oui, ben tu causes Sushi, mais nous on est en train de faire une émission.
Oui, bon, on va dire bonjour à Sushi,
bonjour.
Sachant que Sushi cause parce que Xavier lui a posé une question à la base.
Salopard.
C'est toujours de ma faute en fait.
C'est le principe du travail d'équipe. Thomas.
Allez, on va enchaîner avec quelque chose de peu plus joyeux, le temps d'une BD, parce qu'après on repart dans du glauque. Alors là, on une petite respiration. Oui.
Celle-ci, je suis pas en train de mais ça tombe bien, c'est le fond sonore que j'ai choisi.
Alors tiens, tu passes à Sushi si elle veut feuilleter. Donc on parle de geek, on parle de zombies, de morts-vivants, de science-fiction. On va détendre l'atmosphère un peu avec Geek Agency Level 1 Resident Geek. Jeu de mots. Par Philippe Brion et Romain Huet chez Ankama Édition. Alors ça raconte quoi ? Un groupe de geeks doit délaisser son jeu de rôle pour affronter une invasion de zombies, mais bien réelle cette fois-ci. Mutations à tous les étages, agents secrets, farcis de gadgets, tôle froissée, univers parallèle, clin d'œil à foison, n'en jetez plus, c'est référencé donc c'est cool. Non, c'est... Je m'emporte. Quand tu lis la BD, déjà c'est vite lu. Le dessin est correct. L'histoire.
C'est Philippe Brion.
Ouais. Philippe Brion, c'est pas n'importe qui. C'est le gars qui avait fait une BD qu'on avait chroniquée ici, qui était Karate Boy, mais il avait fait Wanderers, il avait fait La Geste des Chevaliers Dragons. Ça va, c'est pas n'importe qui. Le sujet.
Bon, alors c'est pas possible. Quand tu es aigri comme ça, c'est parce qu'il nous a foutu un lapin pendant tout un festival d'Angoulême.
Alors ça, on n'est pas obligé de le dire à l'antenne, mais c'est surtout que, je disais, le dessin est correct, l'histoire, elle est ultra référencée. T'as des clins d'œil partout. Il y a une page entière sur le générique de Nicky Larson. T'as des geeks au début qui vont se faire un petit jeu de rôle, donc des références, il y a un bouclier du Captain America qui traîne, etc. Bon, tu vois un peu le genre avec des peluches, le gros groupe d'adolescents. Et puis tu lis la BD, alors c'est cool, t'as des morts vivants, voilà. Et puis à la fin, les personnages, ils crèvent les uns après les autres et tu t'en fous. Ils ont oublié de raconter une vraie histoire. Donc je suis désolé.
Aïe aïe aïe.
Ça plante l'atmosphère d'un univers parallèle. Alors il y en a d'autres, hein. Tu vas voir à la dernière page, ça plante le décor pour ils vont se continuer de l'Heroic Fantasy dans le tome 2 après. Sauf que À force de faire de l'ultra-référence, ben, quand tu oublies de raconter une histoire, ben, ça donne un album bancal. C'est l'effet que ça m'a fait. Donc, ce geek... Geek Agency Level 1, ben voilà, c'est une BD qui, ben, pour les fans de morts-vivants, de zombies, c'est moi, alors moi je dis pas, jamais que c'est une mauvaise BD, je dis juste c'est une BD qu'on offre. Voilà. Geek Agency Level 1, Resident Geek, par Philippe.
Dans ta gueule.
par Philippe Brionne et Romain Huet. Romain Huet, c'est scénariste. Philippe Brionne, ou Philippe Brionnès, j'ai jamais su comment on disait, au dessin, chez Ankama, ouais, ben il y a, je pense que ça peut trouver un certain public. Moi, franchement, ça m'a rien fait.
D'accord, ok. Suivant.
Allez.
Ok, Zou.
Alors, par contre, là, on va vraiment dans du pesant, du noir, de chez noir, de la violence, du glauque. Alors là, franchement, c'est pas une BD à lire avant de s'endormir. Ça s'appelle Skryling, tome 1 et tome 2 par Lamy et Venzi. Alors j'essaie de retrouver les prénoms. Thierry Lamy, donc ça c'est le scénariste, et Damien Venzi c'est le dessinateur. Alors je vous donne un exemplaire à chacun. Tenez, pour feuilleter un peu.
Oh, le monsieur il a un beau truc là.
Un bel engin, oui, c'est ça. Alors, Skryling, ça raconte l'histoire de Kostler. Kostler qui est un chien, quand même, lui répétaient les officiers de l'armée du Weltraum, l'état totalitaire qui gouverne le pays. Donc, c'est un monde uchronique, hein. C'est une grosse allusion au régime nazi, mais c'est dans un monde, parallèle. Voilà, c'est, je cherchais le mot. Aux yeux de l'idéologie du parti, il fait partie d'une sous-race, c'est un métèque. Ainsi, dès son enfance, il est arraché au bras de sa mère, abattu sous ses yeux et subi pendant des années un reconditionnement à base de messages de propagande. Son talent sur le champ de bataille, par contre, heureusement, lui vaut l'insigne honneur d'être introduit dans la plus prestigieuse division de l'armée qui s'appelle les Skryling. Sauf que le hic, c'est que bah, il découvre une fois qu'il est dans les Skryling que il va jamais voir la couleur d'une moindre bataille, c'est juste de l'imposture. Cette unité d'élite ne participe jamais à aucune baston et se livre à des reconstitutions en massacrant des esclaves habillés en soldats ennemis sous les caméras de l'unité de propagande.
Ah, Dr. Goebbels, bonne mise en scène, se fait toujours sans effet spécial.
Exactement. Donc ils prennent, je récapitule, ils prennent une sélection des meilleurs combattants du parti, ils les mettent dans des reconstitutions filmées et ils vont juste massacrer des esclaves ou des prisonniers de guerre. Progressivement, alors que ses talents de combattant hors pair lui permettent d'échapper plusieurs fois à des complots, parce que bon, c'est quand même une sous-race, alors il faut un peu lui faire comprendre que c'est un peu un chien, ben Kostler commence à ouvrir les yeux sur sa vraie nature et celle du Weltraum, notamment dans les bras d'une splendide prostituée. Franchement, c'est une BD qui m'a fait. Tu sors pas indemne d'un des deux albums. C'est une série qui est prévue en 3 tomes. Le dessin, ça tabasse. Pour peu qu'on aime les textures très très froides, les ambiances métalliques, la grosse idéologie graphique sur les univers SS, les uniformes, inspirés du régime nazi. C'est très très froid.
Le graphisme est super, mais alors figé.
C'est très 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 figé.
Enfin, il y a une dynamique, hein, attention, oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est rigide et ça se sent. C'est impressionnant.
Et pour moi,
ça pèse sur l'ambiance, quoi, vraiment. Ça...
Ah oui, oui, mais en
ça
plus,
ça fait penser des fois à de la photo de guerre et d'un autre côté aux œuvres des propagandistes des années 30-40.
Et le dessinateur, justement, souligne vraiment le scénario qui est très très noir parce que même dans les scènes d'amour, c'est figé, c'est dessiné d'après photo. Alors, pour moi, au début, quand j'ai commencé la série, je me suis dit c'est un défaut et finalement c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment un parti pris. Si vous aimez les BD dans lesquelles vous pouvez vous plonger et vous prendre d'empathie pour les héros, c'est pas du tout celle-là parce que là, même le héros, vous dites à un moment donné, pourvu que ça finisse, parce que c'est vraiment une épreuve de lire cette BD. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les auteurs ont réussi leur pari. Alors, je le redis, ne surtout pas lire la BD avant de s'endormir, ne surtout pas laisser traîner les pages devant un jeune public. Il y a des scènes vraiment très très chocs, il y a des amputations, il y a des cœurs arrachés vivants, il y a des intestins qui sont à ciel ouvert. C'est vraiment 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 très très glauque, une plongée très très noire dans l'univers fascisant. C'est très pertinent par contre. ça déchire dans tous les sens du terme, voilà, et vous pouvez pas vous lire ça comme ça d'un œil quand vous êtes plongé dedans. Il vous faut une autre BD à côté, un peu plus légère, pour vous remettre dans le monde réel après, et puis essayer de passer à autre chose. Voilà,
ça me fait penser indirectement aussi pas mal à Oshimamaru.
Oui, alors le deuxième tome est dédicacé à Mamoru Oshii, et il reprend tel quel un plan d'Avalon.
Ah oui, effectivement.
Voilà, celui devant. Il reprend un plan d'Avalon de l'immeuble de l'héroïne d'Avalon. Voilà. Donc voilà, ben tu pouvais pas mieux tomber puisque c'est complètement assumé. Voilà. Voilà de l'univers de Mamoru Oshii, mais plutôt Panzer Cop, pas Pat Labor. Hein, les Panzer Cop, les trucs un peu fascisants qu'il a avec Jinro, etc. Voilà.
Donc c'est notamment assumé auquel je pensais effectivement.
Voilà. Donc on rappelle la référence Krailing, tome 1 et 2 dans une série qui en comptera 3. Par Thierry Lamy, le scénariste, et Damien Venzi au dessin, une BD glaçante, franchement, voilà, qui mérite le détour chez Ankama.
Thierry Lamy a aussi fait Hellwest chez Sandawe, donc le deuxième tome normalement est prévu pour prochainement, si je me trompe pas.
Exactement. J'avais pas fait le rapprochement, tu fais bien.
Maintenant, de suite, du Césarisant, voilà, il faut pas que je me trompe de bouton hein, quand je le montre.
Du Césarisant.
Ouais.
I do remember when life was so tender and happy. FMR, 89.1 MHz.
Et on passe à la rubrique, non pas cinéma, mais DVD Blu-ray. Alors, attends, je règle mon micro parce qu'il y a un faux contact, voilà. Alors, on va parler aujourd'hui de Judge Dredd, yeah. Alors, Sushi, toi qui participes un peu à l'émission Cinécure, est-ce qu'ils en ont parlé, est-ce que t'étais là quand ils en ont parlé?
Ah, mais je sais que ça fait partie de nombreuses de leurs conversations.
D'accord, alors tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur le film?
Non, pas vraiment. Ils étaient là en parler, mais après, je suis partout.
Alors, c'est bien, on fait des crossovers dans les émissions ici. Previously on The Other Emission. Mais...
Yeah.
Oui, parce qu'on vous explique, on n'est pas qu'un podcast. On est dans une radio associative où il y a énormément d'émissions. Et le créneau dans lequel on est, donc le créneau 12-14, et le créneau 12-13, pardon, est le créneau qui est prévu pour les impromptus. Et donc le mardi, ce sont nos collègues qui parlent de cinéma.
Alors voilà, aujourd'hui on parle de Judge Dredd. Donc Judge Dredd à l'origine, un personnage de comics anglais créé par John Wagner et Carlos Esquer en 77, paru dans l'hebdomadaire britannique de science-fiction 2000 AD, ou After D, je sais pas comment on dit en anglais, magazine fondé la même année, en 77, qui avait aussi, où était également paru la série Slane, hein, de Pat Mills. Donc voilà, c'était un magazine qui accueillit pas mal de bonnes séries.
C'était vraiment le pendant anglais, en fait, de Metal Hurlant. Voilà.
D'accord. Et donc, dans ce magazine, bon nombre de scénaristes y ont débuté avant de franchir l'Atlantique, on cite pêle-mêle hein, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis ou encore Garth Ennis. Ça va, hein?
Oui, voilà, le pendant anglais de Metal Hurlant.
Alors, situé aux États-Unis, Mega City One est une mégalopole post-apocalyptique tentaculaire où, devant la prolifération incessante du crime et de la sauvagerie, les institutions ont dû s'adapter et créer un ordre spécial, les juges. À la fois policiers, avocats, juges et bourreaux. Ils traquent les criminels et exécutent eux-mêmes les sentences. Alors le plus redoutable, franchement, c'est certainement Joe Dredd, défenseur implacable de la loi et l'ordre, refoulant tout sentiment et dont la particularité respectée dans ce film dont je vais vous parler est de ne jamais retirer son casque.
Bref, il fait à la fois la loi et l'ordre, hein, il constate la sanction, il l'applique immédiatement. C'est un radar routier. sur pattes.
Voilà, alors pour les plus, les moins jeunes ici se souviendront avec pas beaucoup d'émotion de la première adaptation cinéma qui était quand même à l'époque le budget le plus cher de toute l'histoire cinématographique. C'était Judge Dredd avec Sly, hein, Sylvester Stallone et Armand Assant. Voilà, si, voilà. Réalisé par Danny Cannon, et c'est un film qui datait de 95, il me semble, oui. Alors aujourd'hui, donc Exit Sly, place maintenant à l'acteur néo-zélandais Carl Urban. Donc Carl Urban, c'était un acteur que nous avions découvert dans Le Seigneur des Anneaux, c'était lui qui jouait Éomer. Nous l'avions vu aussi dans Les Chroniques de Riddick, on l'avait vu aussi dans Pathfinder. Alors Carl Urban, c'est marrant parce que ça, tu le vois dans les bonus du DVD des Chroniques de Riddick, c'est quand même quelqu'un qui a joué quand même 80% des scènes, de ces scènes du Seigneur des Anneaux avec un casque. Et quand il s'est retrouvé sur les Chroniques de Riddick, où il devait porter également un casque, il s'est dit, putain, j'ai encore un casque, on va jamais voir ma gueule. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chez le coiffeur et puis il a dit, tu me fais la coiffure la plus improbable, comme ça le réalisateur, il aura envie de filmer mes cheveux. C'est pour ça que dans Riddick, en fait, il a une énorme crête. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il enlève son casque et puis on voit un peu plus son jeu d'acteur. Manque de bol. Il atterrit dans Judge Dredd et le film en fait a fondé son pitch sur on respecte à la lettre le personnage des comics, donc on voit jamais sa gueule, on voit juste sa bouche. Et alors bon, faut dire que Carl Urban, même s'il a des
lui
gros
il
bras,
va se prendre un coup de fil de George Lucas, dit tu veux pas reprendre Dark Vador.
Ouais, alors par contre Carl Urban, bon moi j'aime bien cet acteur, mais il faut quand même dire que c'est pas le meilleur acteur du monde. Alors quand t'as un charisme, on va dire, qui est pas à 100% par rapport à d'autres acteurs et que t'es obligé de surjouer la pose à la Judge Dredd, bah tu vois, comment dire, c'est un peu forcé. Alors tu vois, il intensifie son rectus de la bouche. Tout le monde, à un moment donné, quand t'es un jeune garçon ado et que tu te prends pour Judge Dredd ou pour, je sais pas moi, des films de Bruce Willis, tu fais toujours un rictus devant ta glace. Tu fais comme ça, tu fais la grimace, tu essaies de te prendre en photo.
Do you talking to me? Non, c'est pas
ça. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment le rictus de Vincent Cassel, ouais, ou de Niro. À un moment donné, tu t'essaies de prendre
en
photo.
Du mec en colère, quoi.
Du mec en colère, t'essaies de te prendre en photo en pensant que t'es cool, mais en fait, t'es pas du tout cool, tu fais juste une grimace. Et ben là, lui, c'est son jeu d'acteur, il fait la grimace pendant tout le film. Et quand il doit balancer des phrases choc, et ben il fait encore plus la grimace. Moi j'ai trouvé ça émouvant parce que voilà, tu
il essaye au moins, il essaye.
et puis tu vois vraiment le cinéma de série B tel que tu l'aimes, c'est-à-dire c'est pas un film qui pète plus haut que son cul, c'est l'argent il est mis à bon escient dans ce qu'il faut. Y a pas des effets numériques hideux par-dessus, t'as pas des explosions à tous les étages. Et puis c'est quand même un film, alors voilà, il a pas l'état qu'avait le film avec Sly. Sly, c'était un film qui essaie de faire une fable sur l'univers fascisant, sur les gens de pouvoir, sur des explosions à tous les étages, des trucs volants, etc. Là on s'en fout. Qu'est-ce
avec
que c'est
une rédemption qui était complètement hors de propos en fait dans la BD originale.
Ah mais totalement, oui. Il enlève son casque au bout de 10 minutes, c'est une hérésie. Là, qu'est-ce qu'on a? Le pitch, c'est très très simple. C'est dans un futur. Au début, tu as quelques scènes d'exposition dans la rue, mais à un moment donné, ben, il y a un cartel contrôlé par une nana qui est une despote, incarnée justement par Lena Headey qu'on avait pu voir dans les chroniques de Sarah Connor, et également celle qui joue la reine Lannister dans Game of Thrones. Donc c'est quand même une nana qui avait
La blonde.
Voilà, ouais. Voilà, la blonde dans Game of Thrones. En fait, elle est pas du tout blonde, mais là, voilà, elle a les cheveux décolorés. Et donc, c'est un immeuble de 200 étages contrôlé par son cartel avec des gens, des civils dedans aussi, et pour envoyer un message aux ennemis de ce cartel là ils défenestrent trois gars. Et le pitch, c'est que la police est avertie qu'il y a trois gars qui sont morts, ils envoient deux juges dont Dredd et accompagné de son bras droit, qui est juste une nana qui est testée pendant une journée pour voir
c'est une stagiaire quoi.
C'est une stagiaire, sauf qu'elle est mutante télépathe, ça va bien les aider.
Bon allez, mais tu gardes le petit carré blanc avec le L rouge derrière. Hein.
Voilà.
Learning, c'est l'équivalent du A français, voilà.
Voilà. Et ils arrivent dans cet immeuble de 200 étages. Ils commencent à poser des questions qui dérangent. La mama, donc la méchante, s'aperçoit qu'il y a deux juges et puis elle lance un appel sur son interphone qui concerne tous les étages. Il dit voilà, il y a deux juges, vous me les amenez morts ou vifs et puis on va leur faire leur fête. Pitch, 1h30 de film, avec deux juges, où il y a tout ce qu'il y a de porte-flingues de 200 étages qui vont leur tomber dessus avec des fusils à pompe. mais il tombe sur Dredd. Et là, ça le fait pas trop parce que Dredd, il va pas se laisser faire. Alors, c'est un festival de punchline, de changement. Bah, en plus, il a un fusil qui est futuriste. Donc, il peut changer de balle perforante, balle fumigène, balle laser, balle
inflammable.
Exactement. Balle de Mac.
Ah
ah. Donc c'est un film.
Non, c'est tout à l'heure.
Voilà, c'est un film qui reprend le pitch d'un autre film coup de poing de l'année qui était The Raid de Gareth Evans ça se passe en Indonésie, je crois. C'était juste un huis clos dans un immeuble où des forces de l'ordre vont devoir déloger un maniaque du plus haut des étages d'une tour. Et là c'est pareil, c'est la tour 200 étages, c'est un jeu vidéo, c'est-à-dire voilà, tu prends l'ascenseur, à un moment donné l'ascenseur il explose, et bah tu prends les escaliers et tu gravis les étages et tu gravis les étages.
Et pourquoi ils vont pas directement en haut?
Parce que t'as pas de progression, sinon, à un moment donné, t'as les.
C'est bête, hein.
Alors, pourquoi c'est un huis clos? C'est qu'ils peuvent pas sortir de l'immeuble, c'est que le cartel, en fait, maîtrise l'outillage informatique de l'immeuble et puis ils ont activé la brigantine atomique. Donc, ils sont coupés du reste du monde, ils peuvent pas communiquer avec leur hiérarchie. Et quand la hiérarchie est avertie, c'est par les malfrats et ils vont envoyer une cohorte de juges, Ripou. Donc il va y avoir des bastons entre juges aussi. Moi le concept ça m'a parlé. Moi je me suis dit voilà, un bon petit film de série B, scénarisé par Alex Garland qui avait scénarisé La Plage ainsi que tous les films de Danny Boyle, période Trainspotting et tout.
Ouh, ça doit être pas mal. Ouais, ouais. Oui, et puis lui en plus il est bien influencé justement par ce que faisait Heidi. Donc ça doit être pas mal.
Voilà, donc Dredd, bon petit film franchement de série B, beaucoup bien meilleur que le premier avec Sly. Carl Urban fait son office, la petite blonde qui scoltine voilà, c'est la nana que tu vas prendre d'empathie parce que tu t'identifies un peu à elle, t'es un peu derrière la carrure de Dredd. Tu vois qu'ils font des choses pas très catholiques non plus, et puis tu vois que elle se mord un peu les doigts d'avoir buté des mauvaises personnes à un moment donné parce qu'il y a, il y a des dommages collatéraux. Alors voilà, franchement
ça va, tu as appliqué la justice du voilà. Héros connaîtra le sien.
À un moment donné t'as une phrase où Dredd à un moment donné il veut parler aux 200 étages, et puis Mama elle dit à ses hommes, bon ben laissez le parler comme ça on va le localiser. Puis lui il fait le pitch de Dredd, alors c'est je sais que vous avez peur de Mama et tout, pour vous c'est la loi et tout, mais c'est pas la loi c'est moi.
Ok, alors ferme ta gueule.
Voilà, donc film de série B très 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 efficace. Le seul défaut, c'est un peu mou, quoi. Il y a pas de la scène.
Malgré toutes les batailles annoncées étage par étage, on s'en bat, quoi.
Ben ouais, parce que c'est un film qui, c'est pas un réalisateur digne de ce nom derrière. T'as pas des plans séquences de fou. T'as pas un truc où tu tripes vraiment. C'est efficace. Alors c'est tout ce qu'on lui demande. C'est efficace. Il y a pas une seule faute de goût dedans. Franchement, pour moi, ça fonctionne. Judge Dredd, donc l'intitulé du film, c'est Dredd, avec Carl Urban de Pete Travis, avec également Lena Headey, disponible en DVD Blu-ray, est sorti en février. Franchement, vous voulez faire une bonne soirée avec de la testostérone, des bières, de la pizza, vous regardez ce film, bon film de genre de série B, ça remplit son office. Que demande le peuple ?
Thomas, justement, que demande le peuple? C'est extrait de la bande-annonce du précédent film, je suppose, donc tu peux me dire...
C'est extrait de Highlights from Judge Dredd.
Donc, et il y en a qui nous écoutent par le stream audio aussi, donc c'est très très drôle.
Voilà, donc on a des messages. Oui, il y a des filles qui viennent dans le supplément week-end. Oui,
il y a voilà, tout à fait. Extrait de la bande originale, donc du film original avec
Sylvester Stallone, ouais. Et donc c'est toi qui as les références
et
de morceaux.
Cocteau Twins, Need Fire. Thomas a découvert Cocteau Twins.
Eh oui.
Éphémère 89.1, 13h04, c'est le supplément week-end numéro 340. Cocteau Twins, Need Fire, extrait de la bande originale donc du film Judge Dredd.
Non, Dredd. Ah oui, non, Judge Dredd, pardon.
Ouais, c'est Judge Dredd,
le premier film.
Ouais. Non, parce que aux États-Unis, ils ont été obligés d'expliquer qu'il était juge.
Mmh.
Ah, c'est ça le truc.
Alors c'est marrant parce que cette semaine, c'était mercredi soir, je me suis revu Demolition Man. Et le méchant dans ce film de avec Stallone, le méchant s'appelle Cocteau. Alors c'est marrant.
Alors c'est m'as quand même fait louper le début de la musique, voilà. Oui, bah oui.
Sinon, juste, ouais, non, voilà.
Vas-y, continue.
Ah,
continue.
Si tu veux que j'épilogue sur Demolition Man, parce que c'est marrant, parce que j'avais pas vu ça, ces petites références, ces clins d'œil à la première vision, c'est que, en fait, c'est un film qui est truffé de petits trucs vraiment, qui sont pas tout publics. Par exemple, tout le générique se fait sur des longs plans au ralenti du corps de Stallone dans un glaçon. On est à une petite apparition d'une zone de l'entrejambe. Et à un moment donné, Stallone, donc, il apprend la technologie du futur, et puis il se retrouve en visioconférence avec une nana qui est les seins à l'air, et je me suis dit, pas pour passer pour l'excité de service, mais c'est juste j'ai été très surpris de voir que dans un film à gros budget SF tout public de l'époque qu'il y avait ce genre de référence. Alors après il y avait les coquillages, il y avait la violence et tout, bon ok, mais non, c'était un film assez.
En même temps, c'est pas gratuit justement parce que c'est expliqué pourquoi. Donc c'est ça qui fait justement l'intérêt de cette scène, l'intérêt.
Voilà, mais le film est très très bien. Hein. Il a toujours gardé son sel encore aujourd'hui.
D'accord. On va parler d'un tout autre type de cinéma parce que quitte à parler quand même de films de science-fiction et puisque on est en pleine cérémonie des récompenses des films à gros voire très gros budget, on va parler d'autre chose. On va parler de Six Movie. On a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, donc c'est une réalisation.
Six, c'est comme la lettre C, pas S2E. Hein.
Oui, c'est C et plus exactement de E égale MC2, donc c'est la vitesse de la lumière, très exactement.
D'accord.
Un film de Derek Van Gorder. Et on est dans un futur relativement proche, hein, c'est de l'art science, où l'humanité est à nouveau très proche de l'autodestruction mutuelle. De gigantesques superpuissances armées se regardent en chien de faïence prêt à appuyer sur l'ultime bouton rouge. Attention, hein, je suis prêt à te dégommer, toi, mais alors définitivement. Les sous-marins nucléaires sont remplacés par les destroyers spatiaux qui sillonnent notre système solaire.
Destroyer.
Opérant sur le Kestrel 4, armé des missiles capables d'atomiser une planète, Malek souhaite un tout autre futur, l'occasion de partir vers d'autres systèmes solaires. Influencée par un documentaire des années 1970, elle arrive à convaincre une partie de son équipe de se mutiner. Le vaisseau a un moteur fabuleux qui permettrait théoriquement d'approcher de la vitesse de la lumière, ce qui permettrait, par les lois de la relativité, à l'équipage d'atteindre une éventuelle planète viable à des années-lumière de la Terre. Un voyage sans retour, définitif, mais débarrassé du mortel armement. À l'équipage d'essaimer la race humaine. Reste le plus dur, prends le contrôle du Kestrel 4. Alors on a eu District 9 qui a été une bouffée d'air frais monumentale dans le cinéma de science-fiction, réalisé en Afrique du Sud, donc amenant à l'écran un tout autre point de vue. Et justement, l'apartheid, on avait déjà un regard qui était vraiment extraordinaire de ce côté-là, mais sur le plan technique, est-ce qu'il y a encore la place pour faire un film de science-fiction sans une seule once d'infographie, sans utiliser d'ordinateur pour les effets visuels, sans même utiliser de technique d'incrustation sur fond vert?
Même pas de LED flare?
Alors si, justement, ils s'en servent, ce qu'on appelle les gris neutres, tu le sais tout aussi bien que moi. Derek Van Gorder a fait le pari de produire un petit film indépendant sans aucun effet informatique. Et pour cela, il a tourné une petite bande-annonce de 1 minute et il a fait une levée de fonds via Kickstarter. C'est ce que l'on appelle le crowdfunding. Vous connaissez, on en a parlé justement à propos des éditions Sandaway. Et là, il a levé des fonds. Il y a eu un réellement enthousiasme sur la présentation. Rien que la présentation du logo, en fait, c'est tout con. C'est une découpe en carton, un calque dessus et un néon que l'on passe. Et...
Sur les bonus de...
On est juste étonné.
Sur les bonus de The Thing de Carpenter, ils montrent comment ils ont fait ce générique avec les lumières et c'est du physique. Et c'est pareil, c'est un néon avec une bâche par-dessus, ouais.
Alors, Derek y est arrivé. Il a pu produire son récit sur 15 minutes qu'avec des projections lumineuses, de la maquette, des effets filtres, et s'est tourné à la fois avec un appareil de photo numérique et en argentique 16 mm pour donner un cachet au documentaire. Alors, vous pouvez voir sur son blog l'intégralité des détails sur la production et les effets, et notamment un stage qui a été offert aux créateurs dans un des ateliers historiques des trucages d'Hollywood, justement, comment on filme une maquette, comment on donne la spatialisation, comment on fait justement des effets de lumière. C'est juste magnifique.
Le choix de l'objectif aussi. Aussi, j'imagine.
Et c'est de l'appareil photo, donc tu as de ce côté-là, tu as des objectifs fabuleux. C'est aussi ça le crowdfunding, la possibilité pour les spectateurs actionnaires de connaître la vie d'un projet. Alors on note aussi que la plupart des acteurs font du théâtre classique et cela se sent. Il y a une réelle présence puisque la mise en scène impose des dialogues. Ceux-ci sont écrits dans un anglais quand même qui n'est pas immédiatement facile d'accès, mais néanmoins il suffit de regarder 2-3 fois le film, on comprend sans trop de problèmes. Les inspirations du réalisateur, que ce soit 2001, Cosmos, Solaris, Mobile Suit Gundam et Gunbuster sont absolument transparentes. Oui, il y a à la fois du film classique des années 60 américain, russe, mais aussi de la Japanimation. La bande-son qu'on écoute derrière de Cello Rect LA Dreams est dans le style 80s, souligne parfaitement une aventure en milieu clos.
Ah ouais, ouais.
Et personnellement, voilà, c'est vraiment bonheur de ce côté-là. Moi, j'ai suivi cette aventure comme des milliers et des millions d'autres internautes de ce côté-là. Au fur et à mesure, il y avait l'excitation quand il y avait une photo qui apparaissait, quand il montrait juste un petit truc, c'est bah voilà. C'est ça le vaisseau spatial qui va vous faire vibrer, tu vois, c'est un tout petit truc, et après quand tu vois les éclairages et tout ça, tu fais
ah ouais. Mais quand tu vois le, quand tu as dit le pitch tout à l'heure, c'est vrai que ça a fait vraiment penser à Gunbuster, ce côté vraiment isolement dans l'espace où ça te retombe toute une vie, parce que dans Gunbuster c'est deux exploratrices dans une navette et qui reviennent sur Terre et elles ont perdu tous les êtres qu'elles aimaient parce que elles arrivent 300 ans après.
Voilà, parce qu'elles arrivent de plus en plus près de la vitesse de la lumière. Tu vis en fait ton impression de temps relatif est beaucoup plus longue que le temps normal, donc forcément c'est ce qui théoriquement devrait leur permettre de vivre ça. Alors je ne sais pas si du coup ça te donne envie de voir le film ou non de ce côté-là.
Ah oui, moi ça me donne vraiment envie de voir le film. Je crois que nous avons eu un appel, quelqu'un qui essayait de et je sais qui c'est.
Donc, dommage. Non, mais pas quand je suis en direct, ça se fait pas. Ça, il faut me prévenir. Voilà. Donc, See the Movie. Je vais passer à un autre fond derrière Zou.
On peut plus prendre d'appel en direct aujourd'hui.
Non, mais c'est franchement trop compliqué là. See the Movie de Derek Van Gorder. C'est avec Caroline Witterson qui joue le rôle du lieutenant-commandeur Malek. Damien Langan qui joue le docteur Newman, donc qui est l'un des protagonistes du documentaire. Andrew Farner, Daniel B. Region, ils ont tous d'ailleurs plus ou moins travaillé sur les films indépendants. Donc peut-être que vous aurez vu, ils ont des tronches qui sont fabuleuses et on est vraiment surpris par du coup il y a un tout autre effet. Même les effets projetés, les infographies, ce sont pas des infographies.
D'accord.
C'est fait à la main. Et là, on se dit, waouh, c'est juste à tomber par terre.
Alors, comment on fait pour retrouver le film sur Internet ?
Alors, pour cela, on va vous mettre le lien. Sinon, vous cherchez See the Movie dans Google. Vous allez tomber sur la page Vimeo ou sinon sur le
Vimeo.
Site.
Vimeo, pas Wimeo.
Vimeo. Le film est gratuit et librement accessible. On peut acheter la bande-son, c'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà. On peut aussi acheter les DVD, voire même le documentaire en VHS.
Les DVD ? Ah, d'accord.
Il y a le bonus et il y a le documentaire à côté, il est accessible en VHS.
En VHS, d'accord.
Et ils sont allés jusqu'au bout du trip. Et de ce côté-là, il y a vraiment eu des idées phénoménales. C'est vraiment. Ok, c'est old school, mais c'est rafraîchissant. Franchement, à une heure où les films, c'est des films à grand spectacle, où il y a de l'infographie à tout bout de champ, de l'incruste au taquet, et là, on revient à quelque chose, je vais dire, un petit peu plus artisanal. Ça donne une patte, ça donne une chaleur. C'est vraiment extrêmement agréable. Et qu'en plus, il y ait des gens qui soient prêts à payer pour voir ce genre de film à l'avance, à soutenir financièrement, ça prouve que, justement, de ce côté-là, il y a peut-être une place vers une nouvelle créativité. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me dire à côté avant que je mette la bande-son.
Non, mets la bande-son parce que moi ça me donne vraiment envie de voir le film. En plus c'est un film d'un quart d'heure qui est accessible sur le net. C'est juste le côté en langue anglaise exclusivement qui m'a un peu rebuté. Mais
je pense qu'on aura très vite des sous-titrages quand même.
D'accord.
Cellorect, LA Dream, Jamie Come Over. C'est extrait donc de la bande originale du film See the Movie. The Movie, donc Jamie Come Over. par Cello Rect LA Dream. Et Thomas là il est juste waouh.
Oh, par contre il faudrait qu'il change le nom du groupe parce que c'est imprononçable.
Ouais bah alors en plus ils font le petit effet tu vois pendant le générique de fin et tout ça Enfin bon, bref, voilà, c'était juste un pari avec avec Thomas, à savoir est-ce que j'arriverai à lui donner envie. J'ai gagné. Voilà.
C'est laissé avoir Thomas.
Non mais c'est bien, de retour au chaud à la maison avec une petite infusion, là tu te mets le petit truc de SF.
Tu bois des infusions toi. T'es...
Ouais.
Enfin, je le connais, lui il va plutôt aller sur le blog et ah ouais, c'est comme ça qu'ils ont fait, ah ouais, tel truc, ah, ils utilisent telle référence et tout, il va tout noter, tu vois. Bref.
Alors, ce n'est pas la peine de me demander un résumé de l'émission puisque comme nous sommes à deux, j'ai moins de temps pour faire les résumés d'émission.
Quoi pas résumer l'émission.
Non.
C'est pour vrai. Ceux qui ont loupé tout ça, comment ils vont faire
Bonne question. Tiens, bah voilà. En gros, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je lance.
Oui, je pensais que tu allais. C'est la fin. Ça sonne le glas de l'émission.
Ça sonne le glas de l'émission. Et donc, en guise de résumé, que dire? Eh ben, on a parlé de la crise, on a parlé.
Du fascisme.
On a parlé de la vente de son propre nom. On a parlé aussi de Vipère. On a parlé de Jackie Touch. On a parlé de Gentil Chien. Mais attention, c'est pas une aventure pour les enfants du tout. On a parlé de la loi, on a parlé de l'ordre, on a parlé de la loi et de l'ordre, et un voyage proche de la vitesse et de la lumière. Est-ce que c'est bien le résumé que j'ai fait?
Eh ouais, c'était pas mal. Bien.
Ça veut dire qu'on inverse et ça veut dire que c'est toi qui prends la suite du conducteur.
Ah oui, pardon. Attends, je reprends le papier. Alors, d'un magazine animalier, ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, de moins en moins, hélas. Mais même si Xavier ici remet un peu, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Tout attaché sans tirer ni accent sans supplementweekend.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de Twitter. Bienvenue.
On a un Facebook,
de
on a un Google
Sport,
Play,
d'ailleurs.
Fait hier soir à 2h du mat.
Voilà, donc vous pouvez aller sur la page Facebook du Supplément Weekend.
On a un Facebook, on a un Google Plus et donc un Twitter, mais on n'a pas le droit de dire les noms des sites sociaux si c'est pour notre propre pub.
Ah ouais, mais là c'est pas pour notre propre pub.
On peut pas.
Vous écoutez.
Tu parles.
Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur radio-fmr.net dans le prochain épisode. À nouveau une interview. Ce sera... Qu'est-ce que je t'ai dit quand on avait passé comme interview? Parce qu'ici, c'est moi qui fais conducteur maintenant. Co-producteur. On va essayer de revoir nos notes. En tout cas, vous aurez une interview. Vous aurez à nouveau des bandes dessinées en cinéma. Je ne sais pas ce que vous aurez parce qu'il faut que je voie un film d'ici là. Peut-être que ce sera toi, Sushi, qui viendra nous parler de cinéma. Ouais. Je te laisse nous mettre l'eau à la bouche pour... je crois qu'il est question d'un sport...
Ça y est. Souriant et Maudou, normalement, en interview. Et
la saga Freak Squeal.
De mon côté, il y a une BD assez imposante normalement qui devrait arriver et plein d'autres choses.
En tout cas, c'est bien parce que nous faisons un très bel enchaînement. Il est question d'arts martiaux dans Freesquill. Tu vas nous parler d'un sport de contact aujourd'hui.
Et oui, de boxe française.
Donc la savate.
Il faudra être là juste après, donc à 13h30.
On
fait une petite pause musicale et puis c'est à nous.
Merci, ciao, bye bye. Merci de votre fidélité, ça nous donne chaud au cœur, ça nous donne envie de continuer. Restez à l'écoute sur Radio FMR 89.1 en analogique sur la région de Toulouse.